Aujourd'hui, 25 janvier 2014, sixième conférence de Jackie Parmentier, 20e année. Thème de cette année, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Titre de la conférence d'aujourd'hui, neurosciences, vieil homme et création nouvelle.
Et donc, voilà, sur nos trois... ces trois mots clés hein, de cette conférence, neurosciences, vieil homme et nouvelle création, c'était quelque chose en effet que j'avais vraiment envie de regarder parce qu'on trouve de troublants ressemblances, connexions entre tout ce qu'on est en train de découvrir avec les neurosciences. Sur les fonctionnements du cerveau, et aussi avec un lien avec la vie spirituelle, hein, ce qu'on la vie dans l'esprit. Et donc j'avais envie de regarder ces choses-là à la lumière de ce qu'on connaît, etc. Donc dans un premier temps, je voudrais juste repositionner nous savons, est-ce qu'on peut... comme affirmation des neurosciences aujourd'hui, quoi, hein, donc ce qui est aussi une science toute jeune, parce que l'essentiel des découvertes faites en neurosciences ont pas une trentaine d'années, et ce qui était il y a 30 ans, l'essentiel de ce qu'on sait aujourd'hui n'a pas vraiment 10 ans, hein, donc c'est tout nouveau, quoi. Et donc hein, on est sur cette problématique que personne ne va à l'encontre, que l'essentiel de la personnalité de l'homme, de la femme, est dans son cerveau. Hein, c'est dans le cerveau que ça se joue. Donc, en dessous de notre crâne, là, et aujourd'hui, pour simplifier, donc, hein, ces scientifiques nous disent que déjà, c'est quelque chose de toujours extrêmement important à avoir en tête. C'est que nous sommes le fruit de l'évolution. Hein, c'est que, on pourrait, et presque toujours dans les textes des neurosciences, il est question de l'évolution darwinienne. Hein, c'est-à-dire qu'on est dans un système, on est dans une compréhension du savoir biologique qui dit, par exemple 3 milliards d'années, il n'y avait pas de mammifères sur la Terre, il n'y avait pas d'hommes sur la Terre, qui y avait-il à l'époque, il y a 3 milliards d'années? Eh bien, il y avait des êtres unicellulaires, il y avait quelques êtres marins, il y avait... voilà. Et puis, au cours de l'évolution, il va y avoir des êtres de plus en plus compliqués. Alors, on sait, hein, on a par exemple en tête que, à l'époque de l'ère jurassique et du Crétacé, c'est l'époque des grands reptiles hein, qui gouvernent. Et puis, a été apparu déjà dans l'évolution des petits mammifères, donc dans l'évolution, il y a eu les mammifères. Bon, tout ça pour dire que ce que nous sommes aujourd'hui est le fruit d'évolution du vivant. Et notre cerveau est le fruit, par excellence, de l'organisation d'un être vivant. Et donc là-dessus, il y a donc trois cerveaux. Le cerveau reptilien, le plus ancien, le plus profond, celui qui gère quasiment tout le corps, et aussi, en lien avec ça, tout ce qui est plus instinctuel, quoi, hein, voilà. Il a pour mission d'être attentif à ce qu'on reste en vie, quoi. Hein, pourquoi, quand il se met à faire un peu plus froid, plus chaud, il gère tout ça, il organise tout ça. Et puis, là-dessus, c'est créer un autre cerveau, qui est celui qu'on appelle le cerveau limbique, qui est le cerveau des mammifères de la vie sociale. Donc, c'est déjà des choses qui demandent une complexité d'apprentissage. Alors, on le sait chez les troupeaux de mammifères, mais pour les êtres humains, c'est encore plus complexe à apprendre, puisque on sait bien que on a décidé que l'âge adulte était de vers vers 18 ans, 20 ans, ça veut dire que quasiment pour être en état de vivre avec, dans la société humaine, il fallait une vingtaine d'années d'apprentissage. Donc ça veut dire que notre cerveau limbique a une construction qui dure, qui se fait sur presque une vingtaine d'années. Et donc lui, il gère en effet de façon essentielle les relations sociales. Et ça, c'est tellement important dans nos vies, puisque nous vivons en lien avec d'autres, et comme nous sommes des êtres humains, hein, et ça c'est aussi une découverte qui est déjà un peu plus ancienne, on a découvert que l'enfant sauvage, donc lorsque, comme on est des mammifères, un petit bébé humain peut survivre et vivre alimenté par un autre mammifère, hein, une louve, une ours, et ça a existé. Mais l'ennui, c'est que ce petit humain élevé par des loups ou ce petit humain élevé par des ours ne devient jamais un être humain. Parce que s'il est resté 5 ans, 7 ans, 7 ans dans une tribu de loups, eh bien, son cerveau s'est fabriqué d'une certaine manière, et quand on l'intègre, donc il y a eu des enfants sauvages, hein, il y a des qui ont été suivis, ben il a du mal à redevenir véritablement un être humain parce que il n'a pas eu le bagage de formation de son cerveau. Alors voilà. Bon. Juste pour dire, hein, que c'est toute notre vie, elle est fondamentalement sociale. Et puis, alors ça c'est aussi la grande découverte des neurosciences, c'est que il y a un nouveau, qu'on appelle le nouveau cerveau, le néocortex, hein, et tout particulièrement dans le néocortex préfrontal, et en simplifiant qu'on appelle le préfrontal, et qui est là, où il y a toute la mémoire, l'intelligence, la capacité d'innovation, de création. On pourrait presque dire que le monde d'aujourd'hui a été créé par préfrontal. Hein, voilà. Et donc, ce qui est surprenant, ce que nous disent aujourd'hui aussi les gens des neurosciences, de façon assez surprenante, c'est que malheureusement, notre conscience, la conscience de nous-mêmes, n'est pas dans le cerveau le plus intelligent et le plus performant, hein, qui est le cerveau préfrontal. Notre conscience de nous, quand on dit nous, quand on est soi-même en ce moment, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez conduire votre voiture, lorsque vous allez prendre vos décisions demain, vous allez lundi en reprenant le travail, en réalité, à 98% du temps, nous vivons dans le limbique, dans ce vieux cerveau. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez surprenant. Et aussi, une des découvertes des neurosciences, c'est que une partie des malaises et des souffrances de l'existence, c'est que dans notre conscience étant dans ce lieu limbique qu'on pourrait déjà appeler un vieux cerveau, le cerveau ancien, le cerveau social, nous prenons des décisions, mais le cerveau performant, qui lui mouline beaucoup plus rapidement, qui a beaucoup plus de neurones que l'autre pour pouvoir travailler, il se rend compte que nous prenons des décisions qui ne sont pas bonnes pour nous, qui ne sont pas bonnes pour notre vie, qui ne sont pas bonnes pour la vie humaine. Et le seul moyen qu'il a souvent de dire quelque chose, c'est de passer par l'intermédiaire du reptilien pour faire des alertes, et qui sont des alertes qui créent des angoisses et du malaise, de l'inquiétude, alors qu'on vit souvent et on vit dans des processus liés à l'angoisse, à l'inquiétude, au mal-être, au mal-vivre. Une grande partie des chercheurs en neurosciences disent, c'est qu'en fait, c'est qu'il y a en nous une espèce d'incohérence, il y a une partie de notre cerveau auquel nous n'avons pas bien accès, qui sent que nous ne faisons pas ce qu'il faut, et nous avançons, nous prenons des décisions, et cela fait le malaise. Cela fait, on pourrait presque dire, le malheur. Donc ça, c'est aussi... ça nous rejoint là quelque part. Alors, pour terminer un peu ce premier tableau des neurosciences, revenir sur ce cerveau qui était un cerveau vital et qui est un cerveau vital en nous, qui est le cerveau reptilien, parce que c'est celui qui nous permet la survie, qui a permis la survie pendant des millions d'années à la vie. Parce que ça aussi, c'est quand même quelque chose où il y a de quoi s'émerveiller. Chacun d'entre nous, ça c'est toujours pour moi une occasion d'émerveillement, si nous sommes là, c'est que nous sommes en lien direct, sans aucune interruption, avec les premières cellules vivantes qui sont apparues sur la Terre. Et il n'y a pas eu de coupure, sinon on ne serait pas là. C'est que moi, voilà, si je suis là, c'est que voilà, il y a eu mes parents. Si mes parents sont là, c'est qu'il y a eu les grands-parents. Et puis, si les hommes de Cro-Magnon sont là, c'est qu'il y a eu le lien direct avec les Homo erectus. C'est qu'ils ont un lien direct avec les Australopithèques. C'est qu'ils sont en lien avec l'univers des grands singes, les grands. Ça, c'est déjà quelque chose de surprenant quand même, qui devrait, et c'est là où je crois que Teilhard de Chardin nous le dit à chaque fois, nous faire contempler la vie. Et la science peut nous permettre de contempler la vie, d'être là en arrêt devant ça, en disant, mais enfin, c'est vrai que c'est quand même une drôle d'affaire, c'est quand même une drôle d'affaire. Et donc ce cerveau reptilien, il est extrêmement important dans notre mode de fonctionnement. Parce qu'il régit beaucoup nos humeurs. Parce que c'est lui qui pilote tout le corps. Et vous savez bien que quand vous avez mal aux dents, quand vous avez le rhume, quand vous avez la fièvre, on a du mal à être bien. Il y a donc un lien direct entre comment on est dans sa tête et comment on est dans son corps, quoi. Et donc, le cerveau reptilien, lui, il a, on pourrait dire, quatre manières de fonctionner. Une première manière de fonctionner, c'est quand les choses vont plutôt bien, ça va. Il a ce qu'on appelle, il fonctionne suivant par approche. C'est, il essaye de se procurer du plaisir, de faire les choses pour que ça aille bien, que ça avance. Voilà, il est ce qu'on appelle en approche, comme on dira que le chasseur est en train de chasser et puis il avance pour atteindre son but. Voilà. Et puis, il y a, ça c'était le professeur Laborie qui a découvert le premier ces modes de fonctionnement. Quand il arrive quelque chose, un danger, on pourra dire un stress, quelque chose d'un peu délicat, le cerveau reptilien a, lui, mis en place, par l'intermédiaire de l'évolution, trois manières de faire face à un danger, une difficulté, une peur, une angoisse. La première, c'est la fuite, c'est de se sauver, pour l'essentiel, c'est de survivre. C'est de pas se le faire écraser, c'est pas se faire manger, c'est pas se faire annihiler. Donc première chose, la fuite. Et puis le cerveau reptilien aussi s'est organisé. Lorsque la fuite n'est pas possible et qu'elle ne réussit pas, il met en œuvre un autre comportement, une autre attitude, qui est celle de la lutte. Et c'est là aussi, c'est des automatismes qui se mettent en place. Là, on fait ce qu'il faut pour combattre, lutter, se défendre comme il faut pour, et si possible, détruire l'adversaire qui en veut à notre vie. Donc deuxième étape, la lutte. Et troisième étape, quand la fuite n'a pas été possible, quand le combat n'est pas possible, eh bien, il enclenche un autre processus qui est celle de l'inhibition. Faire le mort. Et ça, c'est une chose extrêmement importante. Ça a été extrêmement important au cours de l'évolution. Les grands prédateurs, ce qu'ils aiment, c'est jouer avec les souris vivantes. Quand il y a vous voyez d'ailleurs un chat, il laisse tomber une souris morte. Si elle remue, si elle se sauve, hop, voilà, c'est reparti. Et donc, un des procédés pour pouvoir s'en sortir, eh bien, c'est de faire le mort. Et donc, respirer moins, avoir moins de sang, et puis voilà, l'espèce de... Bon. Alors ça, on voit que c'était des procédés extrêmement efficaces et utiles, et qui ont fait leur preuve de succès, puisque nous sommes là. Hein? Puisque cellules vivantes, petit animal de toutes sortes, poissons, grenouilles, amphibiens... lézards, mammifères, grands mammifères, les australopithèques, je suis là, nous sommes là, donc c'est que tout ça a été extrêmement efficace pour nous sauver. Voilà, mais nous sommes en 2014, et les dangers qu'il y avait il y a 10 000 ans, il y a 100 000 ans, il y a 500 millions d'années, ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Et là, on se rend compte que, et c'est là où, la réflexion nous rend compte que les fonctionnements de ce cerveau-là, eh ben, ne sont pas adaptés du tout à notre vie d'aujourd'hui et qu'on a besoin de réfléchir et de mettre nos affaires. Voilà donc une espèce de premier état des neurosciences. Et aujourd'hui, je trouve que à l'intérieur des neurosciences, il y a une des à la fois c'est une hypothèse hein, et de travail et de découverte de l'équipe de Jacques Fradin, ce qu'on appelait la bascule du limbique au préfrontal. Alors juste aussi que pour ces cliniciens, là, quand ils essayent de définir un peu les critères, quels seraient les critères pour reconnaître les fonctionnements assez classiques du cerveau limbique. Alors, est-ce que vous vous en souvenez hein, moi, j'ai un petit moyen mnémotechnique pour me souvenir de la manière de qu'a le limbique de fonctionner, c'est un mot compliqué qu'il faut apprendre par cœur, mais vous n'en avez qu'un à apprendre par cœur. Roux, re, dit, serre, en, saut. Voilà, lui, c'est la première syllabe, roux, re, dit, serre, en, saut. Je me souviens de ça, voilà, j'ai appris ce mot-là. Roux, re, dit, serre, en, saut. Voilà, je connais ça, et avec ça, je vais être capable de me souvenir. Quels sont les critères qui définissent le cerveau limbique? Voilà, j'entends. Routine, refus, dichotomie, certitude, empirisme, très bien, et saut. Social. Voilà. Donc, on a nos six critères fondamentaux de la manière dont limbique réagit devant, et tout particulièrement devant la nouveauté. Hein, ça, c'est la grande affaire. C'est devant la nouveauté. Hein, et comment réagissent notre cerveau limbique devant la nouveauté? Et puis, de notre côté, on a le cerveau préfrontal. Le néocortex préfrontal, il a des caractéristiques. Alors là aussi, je me suis fabriqué un mot pour pouvoir m'en souvenir par cœur, parce que sinon, j'arrivais pas à me les apprendre par cœur. Alors,